Était-ce la justice? Était-il juste que l'épidémie eût dévasté Sienne? Dieu manifestait vraiment peu de discernement et taxait trop souvent les bons pour payer les fautes des méchants. Bienheureux ceux qui avaient échappé à la peste. Bienheureux messire Giovanni Boccaccio, le fils d'un ami des Ptolémaïdes, de mère française comme Giannino, et qui avait pu demeurer à l'abri, hôte d'un riche seigneur, dans une belle villa en lisière de Florence. Tout le temps de la contagion, afin de distraire les réfugiés de la villa Palmieri et de leur faire oublier que la mort rôdait aux portes, Boccaccio avait écrit ces beaux et plaisants contes que maintenant l'Italie entière répétait. Le courage montré devant le trépas par les hôtes du comte Palmieri et par messer Boccaccio ne valait-il pas toute la sotte bravoure des chevaliers de France? Le notaire Guidarelli partageait complètement cet avis. Or, le roi Philippe s'était remarié 30 jours seulement après la mort de la malreine. Là encore, Giannino trouvait motif à blâmer, non exactement dans le remariage, puisque lui-même en avait fait autant, mais dans l'indécente hâte mise par le roi de France à ses secondes noces. 30 jours. Et qui, Philippe VI, avait-il choisi? C'était là que l'histoire commençait d'être savoureuse. Il avait enlevé à son fils aîné la princesse à laquelle celui-ci devait se remarier, sa cousine Blanche, fille du roi de Navarre, qu'on surnommait Belle Sagesse. Ébloui par l'apparition à la cour de cette pucelle de 18 ans, Philippe avait exigé de son fils, Jean de Normandie, qu'il la lui cédât. Et Jean s'était laissé unir à la comtesse de Boulogne, une veuve de 24 ans, pour laquelle il n'éprouvait pas grand goût, non plus à vrai dire que pour aucune dame, car il semblait que l'héritier de France fût plutôt tourné vers les écuyers. Le roi de 56 ans avait alors retrouvé entre les bras de Belle Sagesse la fougue de sa jeunesse. Belle Sagesse, vraiment, le nom convenait bien. Giannino et Guidarelli en étaient secoués de rire sur leurs chevaux. Belle Sagesse! Messer Boccaccio en eût fait un de ses contes. En 3 mois, la donzelle avait eu les os du roi tournoyeur, et l'on conduisait à Saint-Denis ce superbe imbécile qui n'avait régné un tiers de siècle que pour conduire son royaume de la richesse à la ruine. Jean II, le nouveau roi, âgé maintenant de 36 ans et qu'on appelait « le bon », sans qu'on sût trop pourquoi, possédait tout juste, à ce que les voyageurs rapportaient, les mêmes solides qualités que son père et le même bonheur dans ses entreprises. Il était seulement un peu plus dépensier, instable et futile. Mais il rappelait aussi sa mère par la sournoiserie et la cruauté. Se croyant constamment trahi, il avait déjà fait décapiter son connétable. Parce que le roi Édouard III, campant dans Calais par lui conquis, avait institué l'ordre de la Jarretière, un jour qu'il s'était plu à rattacher lui-même le bas de sa maîtresse, la belle comtesse de Salisbury, le roi Jean II, ne voulant pas demeurer en reste de chevalerie, avait fondé l'ordre de l'Étoile, afin d'en honorer son favori espagnol, le jeune Charles de la Cerda. Ses prouesses s'arrêtaient là. Le peuple crevait de faim. Les campagnes, comme l'industrie, par suite de la peste et de la guerre, manquaient de bras. Les denrées étaient rares et les prix démesurés. On supprimait des emplois, on imposait sur toutes les transactions une taxe de près d'un sol à la livre. Des bandes errantes, semblables aux pastoureaux de jadis, mais plus démentes encore, traversaient le pays, des milliers d'hommes et de femmes en haillons qui se flagellaient les uns les autres avec des cordes ou des chaînes, hurlant des psaumes lugubres le long des routes, et soudain, saisis de fureur, massacraient, comme toujours, les Juifs et les Italiens. Cependant, la cour de France continuait d'étaler un luxe insultant, dépensait pour un seul tournoi ce qui eût suffi à nourrir un an tous les pauvres d'un comté, et se vêtait de façon peu chrétienne, les hommes plus parés de bijoux que les femmes, avec des cottes pincées à la taille, si courtes qu'elles découvraient les fesses, et des chaussures terminées en si longues pointes qu'elles l'empêchaient de marcher. Une compagnie de banque, un peu sérieuse, pouvait-elle à de tels gens consentir de nouveaux prêts ou fournir des laines? Certes non. Et Giannino Baglioni, entrant à Rome le 2 octobre par le Ponte Milvio, était bien résolu à le dire au tribun Colla de Rienzi.